Bonsoir et bienvenue sur le site Bagropoint pour cette énième édition de Toasty. On est au numéro 54. 54 et cette semaine, comme toutes les semaines, vous retrouverez toutes les news de la semaine, les informations sur les tournois à venir. Et cette semaine, à ce propos, on a un invité avec nous, l'Infosor, donc de l'association NTSC, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. Donc je suis président de l'association NTSC et on organise bientôt un event. Bref, on en reparlera tout à l'heure. Voilà.
Exactement. Ah non, si. Et donc avec moi, vous avez reconnu la douce voix virile et de Tibbs.
Oui, alors moi j'ai un petit quiz. Combien de fois a dit semaine Caldam depuis le début de l'enregistrement? Voilà.
Je sais pas, tu parles de combien de fois j'ai dit cette semaine ou combien de fois j'ai dit... Oui, j'ai peut-être dit plusieurs fois. On va aller autrement ça. Les 7 derniers jours, donc les news des 7 derniers jours vont également vous être décrites et commentées par TMDJC.
Voilà, qui a un petit peu de lag, il paraît aujourd'hui. Donc, si jamais je suis en décalé, ne vous étonnez pas, c'est normal.
Donc, si vous entendez rire sur une news, c'est sur la news d'avant, en fait, qu'il.
Ou alors, je suis complètement con, ce qui est concevable aussi.
Ou alors, nous ne sommes pas drôles et il vient de s'en rendre compte. Plein d'hypothèses, à vous de faire votre choix.
Alors, on va commencer à l'actualité de la semaine en parlant de Capcom, parce qu'on commence toujours pas Capcom, mais cette semaine...
En même temps, y a-t-il autre chose que Capcom dans l'univers des jeux de combat? J'ai envie de le dire, quand même.
Il y a deux, trois autres éditeurs. Attends, il y a un éditeur... Oui. Qui c'est qui a édité Avatar Online? Avatar Fighter Online?
Microsoft, non?
C'est Capcom. C'est Capcom. Non, sur Capcom, on a deux news corporate, enfin presque corporate. La première, c'est... tu vas peut-être nous en parler, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité, TMDJC.
Alors, de très loin, pour la première, pas du tout, pour la deuxième, un petit peu, mais j'ai des questions en fait, sur la deuxième que je ne sais pas qui va pouvoir éventuellement répondre, mais on va peut-être commencer par le début. Tips, tu veux commencer?
Alors, si toi, tu as des questions, on n'est pas dans la merde. Hein. Généralement, c'est toi qui donne les réponses. pour la première, en fait, on apprend que sur le site officiel de Capcom, que ces derniers, en fait, ont adressé aux actionnaires un message comme quoi ils allaient... grandement augmenter le développement des jeux en interne et donc pour les 10 prochaines années recruter jusqu'à 1000 personnes dans leur boîte et donc en fait de par le fait réduire grandement l'outsourcing c'est de confier le développement de certains jeux à des boîtes externes comme c'était le cas en fait on revient sur tous les jeux de baston de ces dernières années en fait ont été développés par des boîtes extérieures. À savoir Street Fighter 4, c'était par Dims, par exemple.
Qui, je vous le rappelle, a déjà commis des Dragon Ball.
Voilà, Tatsunoko et Marvel vs. Capcom 3, ça a été AT&G. Mm-hmm. Et en gros, le meilleur quand même a été développé par eux, à savoir Street Cross Tekken.
Non, mais ils vont peut-être racheter des boîtes justement, parce que recruter 1000 personnes comme ça, de but en blanc, c'est compliqué.
Est-ce qu'on peut recruter une fois 1000 personnes?
Non, ils vont sûrement racheter des sociétés pour intégrer des équipes entières, ce qui fonctionne mieux. Parce que
quelle société ils pourraient racheter si on prend les deux sociétés citées précédemment. Il y a pas mal d'anciens de chez Capcom qui n'ont strictement aucune envie d'y retourner pour des raisons purement de confort de travail. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais effectivement, ce serait le plus logique pour eux, oui. Plutôt que d'avoir à former en fait de nouvelles têtes.
Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que Capcom a pas la réputation de savoir garder d'avoir une très bonne ambiance de boulot, enfin du moins de généralement rince les gens qui travaillent chez eux.
Les mecs sont partis, c'est chez SNK, chez Dimp, on le disait tout à l'heure. Enfin, il y a plein de boîtes comme ça qui ont récupéré quand ils n'ont pas eux-mêmes créé leur propre boîte, ils sont partis de chez Capcom. Et c'est vrai que l'ambiance a priori sur place, moi j'ai jamais bossé pour eux, en tout cas dans ces conditions-là, mais ils sont connu pour ne pas lâcher l'affaire quand il veut quelque chose, on va dire.
En tout cas, développement de jeux vidéo, il y a toujours cette période de burn-out à la fin, là, quand tu es sur la fin de production, et Capcom a pour réputation de presser les délais et donc de mettre la pression sur les développeurs, et c'est pour ça qu'ils se barrent.
Et on l'a vu dans beaucoup de jeux. Hein. Et là, c'est pas un troll gratuit sur Street Cross Tekken, c'est que sur d'autres jeux, on a pu déjà en parler. Il y a des jeux qui ne seraient pas sortis comme ça, ils seraient sortis de manière plus finalisée si jamais l'équipe de développement avait eu le temps. Hein. Super Street Fighter 2, Street Fighter Alpha, j'en passais des meilleurs. Il y en a plein qui ont été rushés comme ça.
Donc voilà. Alors, après, c'est censé, je pense, rassurer les actionnaires, mais bon, est-ce que ça va être le cas? Parce qu'il faut savoir que comme Capcom a descendu de notation ces derniers temps, je pense que c'est un message clairement dédié aux actionnaires pour leur dire rassurez-vous, on va y mettre le paquet. Mais bon.
Et par là aussi aux joueurs quelque part, hein, c'est pas juste effectivement les actionnaires. L'idée c'est de dire regardez, on va ramener plein de monde. Souvenez-vous de la période dorée de Capcom, on revient dessus, vous inquiétez pas. Je pense que le message il a double sens.
Bah, on a le temps de voir de toute façon. C'est pour les 10 prochaines années, donc pendant 10 ans toutes les semaines on va vous en parler.
Donc par contre, la deuxième grosse info.
Pardon. Vas-y.
La deuxième grosse info de chez Capcom dont on voulait parler.
Voilà, c'est l'expiration de la licence de Tatsunoko. Alors, moi, j'ai justement une question à ce propos-là. Bon, là, de toute façon, au niveau de l'expiration de la licence, il n'y avait pas à discuter. Tatsunoko ne souhaitait pas, de toute façon, renouveler à ce niveau-là la licence, en tout cas pas pour ce type de jeu. Donc, il n'y a pas de volonté de la part de Tatsunoko et Capcom n'a rien à développer là-dessus. En tout cas, pour le moment, c'est pas une priorité. Ils ont laissé ça un petit peu de côté. Ça leur aurait été déjà arrivé avec Marvel. Hein. Ils sont revenus après à la charge quand ils ont souhaité sortir le troisième épisode de Marvel vs Capcom. Mais la question que je me pose, puisqu'on parlait de rétro-compatibilité avec la Wii U, pourquoi est-ce que les Tatsunoko ne seraient pas compatibles du coup est-ce qu'ils vont bloquer naturellement les CD ou est-ce que tous les jeux ne seront pas rétro-compatibles?
Non, alors en fait, il faudra, si j'ai bien compris, hein, je dis peut-être des bêtises, mais si j'ai bien compris, il faut que les jeux soient patchés ou plutôt qu'il y ait un patch sur la Wii U pour accepter les jeux de manière rétrocompatible. Et donc, c'est fortement probable que ce jeu-là, il n'y ait pas de patch de la part de Capcom pour qu'il soit rétrocompatible.
Donc, tu veux dire
après, que... la console n'est pas encore sortie, donc je pense que quand elle sortira, la première chose qu'on fera, c'est tester ça, puis on mettra Tekken Tag Tournament. Mais c'est très improbable que Capcom s'occupe encore de ce jeu vu qu'il a perdu la licence et qu'a priori il va plus s'y intéresser avant.
Non mais ça là par contre je vous le confirme, ça c'est sûr et certain. Puis de toute façon c'est même si jamais ils souhaitaient le faire, si jamais il y a quelque chose à apporter comme modification là-dessus, légalement parlant et comme ils ont plus le droit, même si c'est un jeu qui est toujours d'actualité parce que c'est un jeu qui est toujours vendu au moins en occasion, en tout cas toutes les ils vont pas récupérer tous les CD qui n'ont pas été vendus pour les jeter, donc s'ils ne produisent pas de nouveaux disques, il y a toujours ces jeux qui sont à vendre à l'heure actuelle, hein, qui sont d'ailleurs de très bons jeux, soit dit en passant. Maintenant, la question qui va se poser, c'est donc on sous-entend que la Wii U naturellement ne lit pas les anciens jeux, ou est-ce que naturellement ils ont décidé qu'il fallait une sorte de validation en fait pour accéder à ça? C'est une manière de protéger les licences.
Je peux pas te dire dans quel sens ça va. Ce que je peux dire, c'est qu'à mon avis, pour jouer à ce jeu, il faudra garder une Wii sous la main, ou alors il faudra qu'il y ait un bidouilleur qui arrive à trouver la manip pour le faire fonctionner naturellement sur Wii U, mais comme ça fonctionnera pas.
Oui, parce que la rétrocompatibilité avec Tatsunoko vs Capcom a été confirmée, quoi.
Oui.
Donc,
ouais, ça a été confirmé.
Je vois pas pourquoi ça marchera, effectivement.
Enfin, ça va être le Guilty Gear de 2010, le jeu où il faudra garder l'ancienne console.
C'est bon. C'est pas très, mais tu vois par exemple je prends un exemple tout bête mais Marvel Capcom versus Marvel versus Capcom 2 à l'époque où Capcom n'avait plus la licence est quand même sorti, enfin que tu avais sur la Xbox, tu pouvais y jouer avec la rétrocompatibilité avec la 360 fonctionnait par exemple.
Oui, mais à l'époque c'était un argument, toutes les consoles qui sortaient devaient être rétrocompatibles. C'était toutes les consoles, si elles n'étaient pas rétrocompatibles, et les gens n'en voulaient pas.
Ah oui, comme la PS3, tu veux dire?
Ça a été jusqu'à la PS3, et même à la PS3, à la sortie, ils voulaient absolument garder cette rétrocompatibilité.
Ma PS3 est rétrocompatible.
Ouais, les toutes premières étaient rétrocompatibles parce que c'est un argument de vente. Ça l'est plus aujourd'hui parce que les gens, ils s'en foutent maintenant des jeux, et puis et surtout, il y a les boutiques online où ils te revendent les anciens jeux. Ça, mais à l'époque, les gens hésitaient à changer de console parce qu'ils avaient peur de plus pouvoir, et puis fallait voir que la PlayStation aussi, la PS2 avait tellement de succès que les gens avaient un catalogue énorme, que les jeux devaient continuer à sortir dessus encore quelques mois, voire un ou deux ans, il me semble.
Mais moi, j'ai une question, les gens, du coup, vous, auditeurs qui nous écoutez, puisque là, on est en train d'exprimer le fait que la plupart des gens s'en foutent. Moi, je sais que c'est quelque chose dont je ne me fous absolument pas, parce que si jamais je veux jouer à plein de jeux différents, je suis obligé de garder 50 consoles dans le salon, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'entre vous, du coup, qui rachètent d'anciens jeux sur les consoles plus récentes, ou est-ce que vous gardez vos anciens trésors? Comment ça se passe? Je serais très curieux de savoir, dans le milieu du jeu de combat, en tout cas ceux qui écoutent Tosti, de savoir comment vous gérez votre truc, parce que moi c'est quelque chose que, enfin, c'est des arguments que j'ai vraiment du mal à entendre. La rétrocompatibilité, c'est quelque chose qui est quand même super simple à faire. Ils peuvent s'appuyer sur des émulateurs quand c'est pas une rétrocompatibilité qui est physique, donc c'est des choses qui existent. On l'a vu notamment lors de la sortie des premières PS3. Alors il y avait une question de coût au niveau du
lecteur, en fait.
Ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, après, il y a des questions effectivement qui peuvent se poser, mais là, clairement, en fait, c'est le but du jeu. On est d'accord, c'est de nous revendre une fois de plus des choses qu'on a déjà achetées par le passé.
Mais je vais te dire exactement comment ça se passe. En fait, si le jeu ressort et qu'il y a un mode réseau, tu rachètes le jeu. Où il y a des filtres, il y a des trucs en plus, tu rachètes le jeu parce que tu as du bonus. Si le jeu est une perle type Guilty Gear et qu'il n'y a toujours pas de réédition, tu gardes tes anciennes consoles ou Killer Instinct, tout ce genre de trucs. Si tu as une gonzesse, tu vends toutes tes consoles.
Ah oui, d'accord, c'est ça. Ouais. Je commence à mieux comprendre mon divorce, en fait. Merci beaucoup, tu viens de m'éclairer. C'est lumineux tout d'un coup.
Tu n'as pas vendu tes consoles, tu divorces.
Voilà, tu choisis. Merci beaucoup, Caldan.
Ouais, bah quoi, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Combien de fois tu vois sur eBay des gens qui revendent leur vie, leur console et tout, ça fait mal. T'as envie de leur acheter et puis le mec il revient 3 mois après, il veut te les racheter.
Ah oui, il s'est fait larguer, normal. Le mec il a lâché ses consoles et la gonzesse part quand même avec son meilleur pote qui du coup aimait le football. Quoi, mais c'est pas possible, tu me quittes pour un footeux. Enfin, imagine la crise.
Bah, d'ailleurs, puisqu'on parle de réédition et d'anciennes versions, il y a Street Fighter 2 Alpha là, qui est passé en surprise sur Good Old Game.
Ouais.
Donc, alors, TMDJC, toi qui connais bien le jeu, est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Ouais, alors du jeu en lui-même, oui, très certainement. De la réédition.
C'est une réédition de la version PC en fait, il n'y a pas de mode réseau en plus, c'est juste une réédition de la version qui est sortie il y a des années.
Donc oui, je vais pouvoir vous en parler. En fait, l'édition qui est sortie sur PC en fait est strictement identique à celle qui est sortie sur Saturn en fait à la même période. J'ai retesté les trois, hein, pour voir du coup ce que ça avait donné entre la version PlayStation, la version Saturn et la version PC. La version Saturn et la version PC sont excessivement proches de la version arcade. Sur la version PlayStation, ils avaient viré quelques animations en fait pour que les temps de chargement ne soient pas trop longs. Mais enfin, je veux dire, pour le commun des joueurs, les trois versions sont vraiment très très proches. Il y a une toute petite différence sur la version Saturn qui avait des artworks supplémentaires qui n'existent pas sur la version PlayStation et qui ont été retirés, je ne sais pas pourquoi, de la version PC. Mais le produit est globalement bon. Il y a de quoi jouer pendant des heures. Si vous êtes un fan de l'Alpha 2, c'est une très bonne version. L'Alpha 2, pour moi, est un des meilleurs Street de toute façon sorti encore aujourd'hui.
Voilà. Et toi, l'Arvozor, tu connais bien Alpha 2? Je crois que tu as commencé sur des jeux quand même assez vieux.
J'ai commencé à Street 2, hein, donc en arcade. Alors oui, j'ai joué à tout évidemment, mais le Street Alpha 2, c'est vrai qu'il a une ambiance particulière, même les musiques, tout ça sont vraiment... ouais, il est chouette, quoi. C'est un des meilleurs, vraiment un des meilleurs de la série, quoi.
Au niveau de l'ambiance, je le préfère même carrément à l'Alpha 3. Hein.
Largement, il n'y a pas photo. Ouais.
Que ce soit au niveau du scénario, des rencontres entre les personnages cachés ou pas, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouve absolument plus après dans la version d'après.
Oui, puis même la bande-son, tout, c'est un grand jeu, quoi.
Ouais.
Voilà. Juste pour une petite précision sur la version de Good Old Games, donc il a $6. Et par contre, prévoyez, si vous comptez jouer au stick ou même au pad Xbox, prévoyez X-Padder en fait, parce que vu que c'est un vieux jeu, c'est nativement effectivement pas, enfin les pads et les sticks sont pas reconnus facilement par le jeu. Du coup, avec X-Padder, ça se résout très facilement.
Alors, moi, je vous avoue que je suis passé par un adaptateur que j'utilise pour foot mes pads PS2 et qui s'appelle. Attends, je suis en train de regarder comment il s'appelle et j'ai pas eu de modification à faire pour pouvoir jouer. Il n'y a pas eu de souci. Hein.
Ouais. Bah, sur les vieux pads, je pense que ça pose pas de souci justement avec un adaptateur USB. Mais a priori, je lis dans les, en tout cas, c'est ce que je lis dans les commentaires des gens qui ont téléchargé le jeu, comme quoi avec le pad Xbox, c'est compliqué. Que beaucoup sont passés par Xpadder avec un Fire Stick ou un pad Xbox. Voilà.
Ok.
C'était la petite précision.
Merci beaucoup pour cette précision.
Alors, on va rester.
On a loupé parce qu'on était sur Alpha 2 et pas Street Fighter 2 Alpha d'ailleurs. Mais on a pas parlé du coup d'Ultimate Marvel versus 3.
Ouais, versus Ultimate Marvel versus Capcom 3, donc le jeu qui a plus d'update mais qui a quand même des news. C'est le jeu en fait où il y a des interviews qui sont faites surtout aux États-Unis puisqu'ils sont à fond sur dans le hype. Ouais, c'est des méga fans du jeu. Il y a deux questions qui ont été posées récemment dans différentes interviews. La première, c'est étant donné que Marvel versus Capcom 3, c'est un jeu avec beaucoup de personnages, est-ce que le jeu pourrait pas passer en free-to-play et être jouable comme ça, puisque le jeu s'y prête, on pourra acheter des persos et jouer avec d'autres. Donc il y a une question qui est très bien posée. Il me semble que c'est sur le Capcom Unity Boards. Donc les boards Capcom US à Svensson, et Svensson a répondu en deux phrases hein, en disant que au Japon de toute façon ils accepteraient jamais ça puisque c'est pas du tout leur mentalité et que s'ils faisaient ça lui il serait viré s'il insinuait même que ça pourrait être possible. Donc si ça devait venir dans un jeu de combat, ça viendrait pas de Capcom et certainement pas sur ce jeu-là.
Ouais, alors pas forcément pas de Capcom, mais pas sur la licence qui tourne autour de l'univers de Street Fighter, c'est surtout ça en fait.
Ah d'accord. Ouais, j'avais pas lu les détails. Ouais, en tout cas, c'est pas prévu, y a pas de projet, c'est vrai qu'on en parle, le parallèle est toujours fait avec League of Legends, où il y a des personnages assez équilibrés qu'on peut débloquer facilement ou moins facilement, selon la rareté du personnage, et un jour, il y aura, je pense que d'ailleurs, Juan Duji Wong, là, le truc chinois, ça doit être un peu du free-to-play, il me semble.
Ah, ça, je ne sais pas.
Ouais, je pense
Nathan
que...
Est-ce que t'as fini de télécharger le jeu, Nathan?
J'ai créé une fausse carte d'identité chinoise et téléchargé le jeu. On en reparle après de ce jeu parce qu'il y a des news encore sur ce jeu. Il y a toujours des news.
Juste pour terminer sur Ultimate Marvel versus Capcom 3, je vous parlais il y a pas longtemps d'un artbook qui était sorti donc dans sa version américaine. Donc on parlait d'une version japonaise finalement qui a priori, en tout cas c'est les dernières informations que j'ai, ne verra pas le jour parce qu'en fait l'éditeur japonais pense qu'il n'y aura pas assez de ventes en fait pour que ce soit intéressant et que les Japonais qui s'intéressaient s'étaient déjà procuré la version américaine. Donc on a un artbook pour une fois qui ne sortira pas au Japon. Ce qui prouve vraiment que le public japonais est vraiment moins intéressé par la licence Marvel que le public américain.
Oui, bah oui, de toute façon ça se voit enfin dans
les coups de source.
Ouais, mais là pour un artbook Capcom, c'était assez intéressant pour le.
Ça se voit dans les intérêts pour les jeux et dans le jeu des Japonais qui est beaucoup moins poussé que le jeu des Américains qui lui va très loin. Il y a une autre news, mais bon, qui est une fausse news. On parle du fait qu'il y avait initialement 8 personnages qui devaient être intégrés, sur lesquels Capcom avait commencé à travailler, mais qui finalement... c'est dommage, on n'a pas les noms des personnages en question, c'est juste qu'il y avait les personnages de Sengoku Basara qui n'ont pas voulu voir leur personnage dans Ultimate Marvel versus Capcom 3. Mais du coup, on sait exactement quels sont le nombre de personnages, en tout cas, qui auraient dû être dans le jeu et qui n'y sont pas.
Et a priori, il y en a 3 qui n'ont jamais été créés, c'est ça?
Ouais, mais on ne sait pas les noms, donc c'est la news qui tient.
C'est la non-news. Mais pourquoi c'est pas Tibbs qui l'a fait, celle-là?
Je ne sais pas.
Je vous en laisse un petit peu.
Allez, Tibbs, il va nous parler de Street Fighter Cross Tekken, puisque c'est le jeu que tout le monde adore.
Ouais. Street Fighter Cross Tekken, oui. Alors encore une belle news. Est-ce que Q sera dans le roster de Street Fighter Cross Tekken, la question?
Non c'est... Non, c'est pas ce jeu. Voilà.
Comment ça?
Bah là, tu es en train de nous parler de Tekken Cross Street Fighter.
Ah oui, oh là là, mais pourquoi?
Oh là là, attention. Tu m'as cassé mon exclu.
L'exclu. Alors bon, on revient en arrière, rollback, tout ça. Ouais, mais tu vois, du coup, moi, je suis pas sur la bonne news, je suis perdu. Alors voilà, c'est pas une exclu, mais ça fait toujours plaisir parce que bon, Street Cross Tekken, quand même, on sait que les gens adorent les gemmes quand ça brille, tout ça.
Ah ouais, gemmes.
Voilà, merci Messieurs DJC. Je pense que je rirai à la fin de la news. alors dispo. Donc dispo en téléchargement, on a un boost, enfin un pack de gemmes boost de 16 à 18. Je pense que du coup, c'est, tout est dit là. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu 15 packs de gemmes sortis avant. Et un nouveau pack de couleurs et un nouveau pack de gemmes Trial Gem. Alors, je ne sais pas ce que c'est, vu que ça ne me parle pas plus que ça.
Oh bah, à mon avis, les gens qui connaissent le jeu, qui jouent au jeu et qui achètent les gemmes dès qu'elles sortent, savent à quoi ça correspond, le Boost Gem Trial Pack 7.
Voilà, alors toi, si tu aimes les gemmes et que comme t'aimes voilà. les JC...
D'où ma deuxième question à nos auditeurs de la semaine. Est-ce qu'il y en a sérieusement en fait, qui ont acheté les DLC? C'est sans troll, hein. Vraiment, ça m'intéresse de le savoir, qui ont acheté les DLC de gemmes et savoir si c'est réellement intéressant dans le jeu. Parce que très honnêtement, je n'utilise absolument pas les gemmes, dans ce qui est débile, hein, dans le jeu. Donc je serais très curieux de savoir ce que vous en faites. Merci.
Non, mais comme tu es un compétiteur hors pair, tu joues sans les gemmes, parce que dans voilà. les vrais tournois, on joue sans les gemmes.
Oui, moi je gagne à la Dokken, moi.
Mais non, les gemmes, ça fait partie du jeu, ça fait partie des mécanismes que les développeurs ont voulu voir et ont pensé pour que le jeu soit équilibré et soit intéressant.
Je suis complètement d'accord, je ne les prends absolument pas en compte, je ne suis pas un bon joueur de ce jeu.
De toute façon, alors si jamais vous n'avez pas acheté les gemmes, mais que ça vous dit, vous pouvez acheter le jeu en promotion en ce moment, sur le Capcom Store, à 15,99$.
Alors par contre, je ne sais pas si c'est pas que pour les États-Unis. En tout cas, pour la version Xbox, c'est que pour les États-Unis. Pour la version PlayStation, il me semble qu'il n'est pas zoné, donc on peut l'acheter. Mais est-ce qu'on peut l'importer? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait le test.
Ah, ouais, aucune idée.
Donc voilà. Donc si tu es américain et que tu joues sur Xbox et que tu as $16 à dépenser, n'hésite pas. Et tape dans tes mains aussi. Sauf si t'es manchot.
Et voilà. Et donc, on va enchaîner sur une exclue backgro point. Tekken Cross Street Fighter, la première information. Alors, Tim, puisque tu as commencé à en parler, je vais te laisser finir.
Non, mais en fait, la news me semblait tellement destinée, une news pour dire qu'en fait, ta perso ne sera pas dans un jeu, que du coup je me suis senti obligé d'en parler. Et donc, oui, une question a été posée à Arada pour demander en fait si Q ferait partie du roster de Tekken Cross Street Fighter. Et donc, alors là, réponse très, très, très longue.
Immédiate.
Et, explicite, à savoir non. Et tout le staff de Capcom a répondu en cœur non. Voilà. Après, ils ont pris des shots de tequila, tout ça, ils sont déguisés, mais bon, ça, on n'en parle pas. Non, voilà, donc pas de cul dans Tekken Cross Street Fighter.
Bah, c'est normal, c'est pas dit dans Alive Cross Street Fighter, sinon il y aurait du cul.
Et tout de suite, je m'en vais.
Mais il y a des joueurs de Q ici, du coup.
Non.
À chaque fois,
j'en connais. En plus, j'en connais pas spécialement non plus.
C'est le perso que tu testes. Tu perds 5-6 matchs. Tu perds 5-6 matchs. Bah, sur, je sais plus quel forum US quand ils parlent de Q, en fait, ils disent que le perso existe uniquement pour être battu par Ryu. C'est...
Non, à part il y a un Jap qui joue exceptionnellement
bien, ouais.
Voilà. Mais à part ça, c'est tout.
Ouais.
Mais bah, par exemple, quand tu achetais la version sur PlayStation 2 de Sir Strike, tu avais un DVD avec qui expliquait comment fonctionnait le jeu, etc., qui était d'ailleurs absolument génial. Et donc le passage sur Q donnait vraiment envie de jouer le personnage, parce que les mecs qui ont développé le jeu, enfin voilà, savaient se servir du personnage. Moi, j'ai essayé pour voir vite fait ce que j'arrivais à faire avec, mais il y a vraiment des persos que j'adore dans le jeu, mais Q, enfin voilà, ça fait partie des personnages, j'accroche pas quoi.
Et ben nous, on a un joueur de Q chez nous, attention. Hein.
Ah bah voilà.
Donc, alors, bah vas-y alors.
Bah alors, il a jamais rien fait, mais. mais en tout cas, il y a des bonnes phases de temps en temps, mais bon, c'est vrai que c'est un perso qui reste limité quoi, donc faut vraiment être très bon quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'as des persos par exemple qui nécessitent d'être très bons, genre Ibuki, parce qu'elle a de très bonnes phases, mais elle a une barre
en mousse.
Et voilà, et encore la mousse à côté, c'est du titane.
Ouais, ouais.
Mais voilà, enfin le personnage, il a des phases absolument excellentes, elle est ultra rapide, les enchaînements font super mal, enfin quand tu sais les placer. Donc mais Q, je reste perplexe.
Ah, il a des trous dans ses coups, c'est insupportable.
Ouais, mais là, une grosse.
Quand tu mets trois coups, l'autre en face, il est mort, entre guillemets, mais c'est. Ça vaut pas un Zangief, si tu veux, dans la catégorie je mets des grandes claques dans ta gueule.
Ah, bah, Hugo met des grandes claques.
Ah, ou Hugo, effectivement.
Hugo, j'adore.
Ouais, et puis en plus, lui, il met vraiment des claques au sens propre du terme.
Bah, Hugo, quand tu mets trois coups forts dans Ibuki, elle est morte, par exemple.
Alors, est-ce que Hugo sera dans Tekken Tag 2 ?
Tekken Tag 2 ? C'est pas
voilà. Il va faire la transition ?
Je sais.
Ah, tu parles de Tekken sur Street Fighter. Non, bah, Tekken Tag 2, tu essayais de faire la transition, en fait.
Ouais, mais moi, je suis pas bon en transition. Non,
Hugo n'y sera pas. Par contre, il y a Boskonovic, Violet et Unknown qui seront très certainement, quand vous écouterez ce toastie, vous allumez votre PlayStation ou votre Xbox en même temps et le patch devrait se télécharger.
C'est qui Unknown?
Je sais pas.
C'est le dernier boss du jeu, quoi.
Ah oui, effectivement. Maintenant que tu le dis. Et il y a également les persos de préco qui devraient être débloqués avec le même patch, qui sont Michel et je sais plus qui. Kunimitsu, enfin tous les persos qui étaient dispo si vous précommandiez le jeu. Donc comme prévu, ils sont gratos et ils seront en téléchargement d'ici aujourd'hui ou demain.
Bah, comme dans Street Cross Tekken, sauf que les persos gratos, fallait les acheter, c'est tout.
Donc on a une autre info sur Namco vis-à-vis de Tekken Tag Tournament, c'est vis-à-vis du mode online. Est-ce que Tips, toi t'as joué?
J'ai un petit peu joué, mais effectivement je viens de voir la news. En gros, Namco commence à bannir les boosters. Alors les boosters, en gros, c'est des joueurs qui utilisent soit plusieurs comptes ou des potes et tout ça, en fait, pour faire des matchs en classé, des matchs online, et gagner des matchs comme ça facilement avec un adversaire qui ne fait rien ou contre soi-même avec un autre compte. Mais en gros, des personnes qui remportent pas mal de points en ranking et puis en mode classé et donc qui arrivent en haut des classements sans avoir vraiment de skill ou quoi.
Ah, c'est comme les potes de TMDJC qui se mettent dans COF 12 à poil et qui restent sur l'online.
Voilà.
À mettre des coups dans le vide et en attendant de se faire défoncer.
C'est ça. Sauf que sur COF 12, personne n'a encore banni, n'a été banni.
Ah, mais c'est parce qu'il y a un classement dans Tekken Tag, il me semble.
Voilà. Et comme il y a un classement dans Tekken Tag, eh bien, avec pas mal de stats et tout ça, Namco a décidé de faire le ménage.
C'est pas plus mal.
Donc on n'a pas de ah si, il y a une liste des profils qui ont été bannis là, donc a priori il y en a quelques-uns quand même.
Oh, j'espère qu'on n'en aura pas chez nous.
Ah, c'est pas le genre de la maison.
C'est le genre de tout le monde quand c'est possible.
c'est vrai. Donc voilà.
À mon avis, ils ont dû faire exactement comme fait Microsoft quand ils bannissent des comptes de Xbox ou n'importe qui. Ils attendent qu'il y ait suffisamment de monde et que beaucoup de gens abusent du système et ils bannissent tout le monde d'un coup pour faire une grande claque et pour faire un grand coup et dissuader tout le monde. Parce que c'est vrai que s'ils les bannissaient un par un, les gens seraient plus précautionneux et trouveraient d'autres moyens de greuger tout de suite.
Exactement.
Alors, on va parler maintenant, on va changer d'éditeur, on va parler de Sony et notamment de son PlayStation All-Star. Et je vais demander à TMDJC de nous parler des personnages de ce jeu.
Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait?
Mais je sais que tu aimes ce jeu et que tu t'y intéresses absolument pas.
Non, mais c'est vrai, mais c'est dégueu. En plus, juste avant de débuter l'émission, je te dis ouais, c'était bien quand vous étiez tous les deux et tout. Je te fais des compliments, tu me balances ça devant tout le monde.
Mais c'est dégueulasse. Tu as sorti ton sandwich et tu t'es dit, mais pourquoi moi?
Bon, bah, l'Arvosor, c'est pour toi, vas-y, parle-nous des.
Alors, donc, non, je sais rien de ce jeu, hein. j'ai pas suivi du tout, je suis désolé.
Bon, alors, je vais vous en parler, moi. Alors, on a des news sur Crash Bandicoot, donc le personnage que tout le monde attendait. Et a priori, en fait, c'est des négociations en très haut lieu qui ont été faites pour Crash Bandicoot. Et pour l'instant, ça n'a rien donné, donc Crash ne sera pas dans le jeu. Jusqu'à nouvel ordre, Crash n'est pas dans le jeu. Donc, c'est peut-être une annonce qui est faite pour faire mûrir, languir un peu tout le monde.
Alors, le perso appartient à qui?
Alors, non seulement Crash n'est pas dans le jeu, mais tous les personnages qui sont dans la version initiale sont accessibles. Il n'y a pas de perso caché, en fait. Tous les persos ont déjà été présentés. Donc, il n'y aura pas de perso caché. Par contre, il y a une autre interview qui a été réalisée avec Clockwork, un des designers qui est aussi un joueur de Marvel par la même occasion, et qui indique qu'il y aurait par la suite des personnages et des stages en DLC.
Oui, ça, c'est ce qu'on avait
déjà dit. Par contre, ils n'ont pas précisé si c'était payant ou pas.
Non, bah, du DLC, ça va être payant, très certainement.
Ah bon?
Et on a le boss qui a été présenté. Alors, si vous aviez une PlayStation, vous le reconnaîtrez peut-être, c'est Polygon Man.
Polygon Man.
Non, ça vous dit rien?
Pas du tout.
Bah écoute, moi non plus, quand je l'ai vu, j'ai pensé au boss de Star Fox. Parce que
non, moi je me souviens de Cycloïd et de Beta dans Street Fighter EX+, mais...
Non, sur PlayStation, il me semble qu'il y avait une démo technique avec ce mec-là, et c'est une tête en polygone.
Je vois la tête, effectivement, mais alors ça ne me parle absolument pas.
Il faut être de la génération PlayStation.
Oui, t'es trop jeune, Tips.
Oh putain, c'est bien la première fois
qu'on... Non, mais même moi, tu vois, j'étais de... je suis né avant la PlayStation, mais quand elle est sortie...
Je suis né avant la PlayStation.
Ouais, quand elle est sortie au début, ce que je voulais dire, c'est que... Heureusement que je suis né avant la PlayStation. Et quand elle est sortie au début, les jeux qu'il y avait dessus m'intéressaient absolument pas. Il n'y a que quand il y a commencé à avoir des jeux intéressants... comme Tekken, Tekken 2, etc. Toshiden, j'avais testé brièvement à la Fnac ou je sais plus quel magasin et ça m'avait l'air tellement facile que.
Non, mais j'étais là au tout début de la PlayStation où on pouvait acheter des jeux japonais et mettre des jeux japonais juste avec un cure-dent. Il suffisait de coincer un cure-dent dans la console.
Effectivement, j'ai vu la vieille manip.
Mais le boss en question ne me dit absolument rien.
Mais Toshiden, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était dans une petite boutique à Saint-Maur-des-Fossés. Et en fait, à l'époque, c'était le premier jeu en 3D, vu de ma fenêtre, hein, que je trouvais accessible pour le streeteux que j'étais. Donc, j'avais passé quelques heures dessus. C'est plus tard que j'ai compris que c'était pas un bon jeu. Pareil.
Oui, mais ça, quand on commence, généralement, les jeux paraissent beaux, paraissent sympas.
Dès que tu poussais un petit peu, tu voyais que...
Mais ce que je trouvais rigolo, en fait, c'est que moi qui connaissais rien aux jeux 3D, alors que je me faisais exploser à Virtua Fighter, par exemple, c'est que je pouvais pousser tout le monde, en fait. Je faisais des hors-ring tout le temps, en fait. Je trouvais ça vachement drôle.
Ouais, bah, peut-être qu'on aura un Revival Toshinden sur Xbox ou PS3.
Toshinden 2 qui a été développé entre autres avec l'équipe de Capcom d'ailleurs.
Ouais, qui était un peu mieux, mais pas top non plus.
Oui, c'était pas non plus le jeu du siècle.
Hein. Ouais, mais c'était un peu mieux.
Ah bah oui.
Enfin bon, puisqu'on parle de Sony, on va parler de son grand concurrent dans les consoles, la Microsoft.
Oui.
Alors, Microsoft. Quoi de neuf chez Microsoft? Donc ils ont sorti une tablette Surface qui a... Non, c'est pas ça. On voulait parler.
Non, Microsoft va sponsoriser en fait le CEO 2013 à Orlando. Donc ce sera un gros tournoi, enfin un gros event en Floride qui aura lieu du 28 au 30 juin 2013. Et donc Microsoft sera le sponsor officiel de l'événement. Alors il faut rappeler qu'aux États-Unis, beaucoup d'événements se passent sur PS3. Parce que Sony est assez présent lors des événements. Je parle notamment de l'Evo, qui est c'est un petit event, vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais l'Evo, ça se joue effectivement sur PS3. Enfin, en tout cas, ça s'est joué jusqu'à maintenant sur PS3 la plupart du temps. Et là, on a un gros event qui arrive et qui va être sponsorisé par Microsoft. Donc je pense que Microsoft essaie de regagner un petit peu de terrain à ce niveau-là aux États-Unis.
Ouais, mais ils ont tout intérêt à le faire parce que, étant donné qu'il y a la prochaine génération de consoles qui arrive derrière, c'est le moment ou jamais de se montrer. Hein.
Complètement.
Mais est-ce que tu sais comment on appelle les développeurs et les techniciens qui travaillent sur les nouvelles tablettes et interfaces de Microsoft?
Vas-y, je t'écoute.
Les techniciens de Surface.
Je valide. C'est très bon. C'est très bravo.
Voilà, c'était tout aussi, pour Microsoft.
Toi aussi en commentaire, vote pour la meilleure blague de la soirée.
Ouais. Mais celle-là, elle est bien, hein, franchement.
En parlant de Microsoft, oui, je vais enchaîner et dire que le patch pour Skullgirls, dont on vous rabâche les oreilles depuis quelques temps, est en cours de validation chez Sony et Microsoft. Donc, ça devrait arriver prochainement.
Alors je sais qu'on n'arrête pas de vous dire ça toutes les semaines, mais ça se rapproche pour de vrai.
Pour de vrai. Peut-être qu'on va bientôt vous en parler pour vous dire ça y est, c'est sorti.
Non, parce qu'avant, il n'était pas accepté en validation. Maintenant, il a été accepté, donc le patch voilà. Est passé.
Il y a une étape.
Voilà. Donc, c'est en cours de validation. Ça va arriver. On vous tiendra au courant. Et puis même s'il ne se passe rien, on vous en parlera. Voilà. Ce qu'on aime bien.
Et maintenant, on va vous parler du joyau de Pékin, la lueur de la Grande Muraille, Xuan Douji Wang, qui nous présente un nouveau personnage. Nouveau personnage qui s'appelle comment ?
Charlet. Alors, est-ce que chez ANTSC, l'Arbosaur, vous avez un Chinois avec une carte d'identité officielle qui a pu télécharger le jeu ? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce jeu ?
Eh ben oui, mais justement, on aimerait bien l'avoir, mais pour l'instant... encore fait quoi. Ouais, on n'a pas de chinois valide dans le coin.
Donc voilà, si t'écoutes aussi et que t'es chinois et que t'as moyen d'avoir le jeu, n'hésite pas.
Voilà, parce que nous on l'attend, attention. Hein.
Parce que ce perso, donc Charley, c'est un peu un perso qui reprend les coups de Jeannette, de Mature, je sais pas c'est quel sprite qui était copié.
Il y a l'air d'y avoir un petit peu de Leona aussi dans les coups, j'ai l'impression.
Ah, c'est possible, c'est plus... c'est possible. Mais c'est vraiment de la copie parfaite, quoi.
En tout cas, bah, c'est le jeu que... dont on peut se moquer parce que pour le plagiat et compagnie, mais mine de rien, moi, ça, j'ai toujours envie d'y jouer. Mais
franchement, il est super joli, hein. La copie est bien faite.
Ouais, voilà.
Ah, si c'est une bonne compile au final, pourquoi pas, hein, finalement.
Non, mais ça peut être rigolo. Enfin, sortir ça une soirée, tout ça, je pense que sans pousser le jeu aussi loin que les Chinois doivent s'y mettre, je pense que ça doit être sympa à jouer.
Mais souvenez-vous de certains hacks qui sont sortis sur Neo Geo. Enfin, il y avait des perles, hein. Vraiment, il y a des mecs qui sont capables de reprendre le jeu d'origine, de le retourner. Tu sens que les gens sont des fans quand même. Mm-hmm. Je vois plus le côté vraiment hommage en fait que plagiat. C'est trop flagrant de toute façon pour que ce serait débile de pas les voir les références.
Enfin, là, on parle des Chinois quand même, donc.
C'est pas faux.
Ils font un paquet d'hommages de plein de trucs, les Chinois.
Non, ça n'a pas iPhone, ça, non.
C'est plus qu'un hommage.
Hommage iPhone.
Ouais, bah voilà.
Donc voilà, de toute façon, toute personne n'y a touché. On n'a pas encore vu le personnage en mouvement.
Vous avez touché à ce jeu. Non, monsieur, je vous jure, n'y a pas touché.
Non, mais on l'a pas vu en mouvement. On n'a pas eu l'occasion de. Enfin, en tout cas, je parle du personnage, hein, du dernier personnage. On l'a pas vu en mouvement. Il y a que des screenshots pour l'instant, donc je pense que ça va arriver rapidement.
Ça se trouve même au moment où vous allez écouter cette vidéo qui seront. Parce qu'à mon avis, ça va aller très vite.
Voilà. Et par contre, c'est un jeu auquel tu peux nous parler, Kaldam, qu'on a joué pendant des nuits entières.
Tu parles de Avatar Online.
Non, mais attends, mais il s'améliore largement, je trouve.
Ah oui, il y a un nouveau patch qui est sorti, le 1.3D, et qui rajoute des nerfs, qui change 2-3 trucs, qui corrige des bugs, et c'est tout. Voilà, c'est juste pour dire, si vous avez le jeu, lancez-le, patchez
ce patch. Peut-être qu'on aura une vidéo de combo de desk.
Il y a déjà eu.
Ah, oui, justement, avec le nouveau patch et tout.
Avec le nouveau patch, ouais, il va nous sortir des mécanismes et ça va devenir la 8e merveille du monde. Mais j'y crois pas trop, je pense que c'est plus dans les jeux de type Dive Kick qu'on aura des nouveautés.
Cette transition. Non, mais là je vais afficher un poster de toi avec... un enregistrement de toutes une compile de toutes tes transitions, tu vois, j'en perds mes mots. Vas-y, continue.
Au départ, je me disais, il marche sur les plates-bandes de Jojo, mais je me demande si tu ne l'as pas dépassé, en fait, sur les transitions.
Ah, c'est pas possible.
Si, il faudrait qu'il repasse par ici, justement, pour défendre son titre, parce que là, je trouve que tu places la barre très haut.
Hein, Jojo, monsieur n'est pas dépassable, il prend tout le trottoir, donc t'es obligé de te mettre en danger.
Vous avez un nouveau message.
Jojo, si tu nous écoutes.
Ce soir, sur Street Fighter 4. Non, alors, pourquoi on parle de Divekick? Parce qu'en fait, il y a... Divekick, vous saviez qu'il était en Kickstarter pendant un moment. Il avait réussi à remplir ses objectifs de Kickstarter. Et d'un seul coup, le Kickstarter a été annulé. Puisqu'apparemment, ils ont trouvé le mec qui avait lancé Divekick et qui l'avait présenté au tournoi américain là, de Chicago, il me semble. Avait trouvé un développeur. Et donc là, le jeu, a priori, est en développement. On n'a pas de news depuis, c'est pas faute d'attendre et de relancer. Mais par contre, on a eu sorti d'on ne sait où une copie qui s'appelle Katawa Dive Kick, qui est en fait un dive kick avec 5 personnages, il me semble. Et c'est des lolis. Des lolis en mini-jupe. Et le jeu est similaire à Dive Kick, donc il est téléchargeable gratuitement sur leur site de Rosalila Studio. Donc c'est la grosse copie de Dive Kick. Vous reconnaissez l'animation avec 2 étapes au sol et en saut. C'est pareil, on tue en un coup et chaque personnage a des coups, a des dive kicks différents.
Alors, la commande du jeu, je crois, a été validée par un certain Cookwell. On n'a pas les détails encore. On attend de voir qui se cache derrière ce pseudo.
De ce pseudonyme. Qu'est-ce qu'on sait? Il y a 5 personnages avec des propriétés différentes. Certains qui sautent un petit peu plus haut, certains qui ont des sauts un petit peu timides.
Et le dernier qui a, il me semble, en fait, qui cycle entre 3 dive kicks différents. Donc en fait, un dive kick sur 3 va loin, un autre va moyenne distance et l'autre est plus allongé sur la longueur.
Alors, c'est absolument ignoble à regarder. Ouais. Il y a 2 étapes d'animation par perso.
Il y a une vidéo YouTube. Si vous n'avez pas free, vous pouvez regarder.
Vous pouvez regarder la vidéo. Et donc voilà, vous pouvez compter sur nous pour ne pas y jouer.
Tout à fait, mais c'est gratuit, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le télécharger. Par contre, ce qui était gratuit avant et qui n'est plus gratuit maintenant, c'est TMDJC qui va vous en parler parce que je sais qu'il est très très fan de ce genre de jeu.
Tu parles de quoi de Vanguard Princess hein?
Vanguard Princess, oui.
Vanguard Princess.
Ouais.
Qui était gratuit, qui n'est plus. Il existe toujours en gratuit ou pas? Enfin, il y a une version.
Il me semble qu'il faut aller sur des sites Jap pour le télécharger. Qu'on peut le retrouver. Alors là, il est en vente sur.
Il est sorti sur Gamers Gate, pardon. Donc, je crois que c'est tout.
Ouais. Alors, par contre, le jeu était gratuit avant et c'est la sortie Gamers Gate. C'est pas la même version, c'est la version précédente. Donc, il manque juste un perso que j'ai pas pu voir, qui a priori est une sorte de tank girl. Tous les persos sont des lolis.
Ouais, mais il y a quand même des sacrées variantes parce que pour parler de Vanguard Quest 7, sur la dernière version il y a 11 persos, donc sur la version téléchargée il y en a 10. Vous avez soit une loli, une petite loli avec un nounours et des petits seins, soit une petite loli avec sans nounours mais avec des seins un peu plus gros, ou une loli en armure et en string, ou une loli avec des gros seins un peu plus grandes. Enfin, vous voyez, c'est.
Ah, vous avez toutes les variations selon ce que vous aimez.
Pourquoi c'est la version précédente qui est vendue?
Parce qu'en fait, le jeu était, c'était un jeu d'ougine gratuit sur PC auparavant. A priori, le mec qui développe ça, c'est un ancien de Capcom qui a travaillé avec, comment il s'appelle ce truc, Fighter Maker 2 ou je sais pas quoi.
Ah, d'accord.
Et qui a priori son codeur a découvert les jeux de combat. Donc il y a certains mécanismes assez originaux comme le fait que quand t'es baissé ou quand t'es en saut, tu reçois un peu plus de dégâts. T'as un système un peu comme des paris.
Ouais.
Et à côté de ça, sinon le jeu est standard. Il est pas moche du tout.
Non, c'est pas moche.
L'animation est moyenne sans plus. Par contre, il y a un truc qui est dégueulasse. Et là, je vous invite du coup à ne pas acheter le jeu. C'est qu'il y a Securum dans ce jeu, alors que le jeu était gratuit. Si vous pouvez certainement encore le télécharger en essayant de naviguer sur des sites pas très catholiques de manière gratuite,
mais la version de la dernière version,
vous avez Securum, c'est un peu surdimensionné vu la taille du truc.
Voilà, tout est dit.
Tout est dit sur ce jeu, ben voilà. Je suis en train de regarder la vidéo, du coup je me suis arrêté.
Le mec qui regarde des vidéos pendant qu'il... Non mais... Jojo, reviens.
Jojo, reviens.
Et donc, par contre, on a une news sur un jeu que je ne connais absolument pas. C'est Nathan qui a posté ça sur le site. Je ne sais pas où il nous a trouvé ça. C'est un truc avec des Mexicains, là. Senior Footsies.
Senior Footsies. Senior
Footsies, oui.
Oui, alors a priori, c'est un jeu qui oppose deux bandidos. En gros, c'est un jeu, comme son nom l'indique, un jeu de foot 6, donc votre perso a 3 coups. Sachant qu'un des 3 coups, c'est un spécial qui peut se déclencher qu'une fois que votre barre est remplie. Donc les 2 coups que vous avez, c'est des coups de zoning. Alors des coups de zoning, c'est un bas médium et une balayette.
Ok.
Et donc faut faire avancer votre Mexicain en donnant des coups. Donc vous jouez uniquement avec des foot 6, il n'y a pas de saut. Une fois que vous avez rempli votre barre, vous tuez votre adversaire avec un coup de pistolet. Et alors c'est pas, d'après ce que dit en tout cas Nathan, c'est pas très drôle, c'est pas très intéressant, mais en même temps avec une tequila et ça peut passer. Hein. Mais donc voilà, il fait surtout créé par Maxwell Magazine. Non, je ne crois pas que ce soit lui. Ah non, c'est un article de Maxwell McGee sur GameSpot en fait qui parle du jeu et qui donne des leçons un petit peu de gameplay sur un jeu qui n'est pas forcément intéressant.
C'est Luc Esquivel, le créateur a priori.
Voilà, donc essayez. A priori, c'est gratuit et puis vous pouvez tester le truc. C'est pas joli, c'est pas très drôle, mais bon.
En fait, c'est surtout que c'est super moche en fait.
C'est deux Mexicains avec des grands chapeaux.
Non, mais ça n'a rien à voir. C'est que j'ai rien contre les Mexicains. Hein. Il m'est même arrivé de jouer à Mario.
Non, mais attends,
c'est totalement honnête avec vous. Mais
c'est vestimentairement, c'est moche, quoi.
Non, mais même graphiquement, c'est vraiment pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est le genre de truc que je fais quand je suis bourré, moi, sur Flash. Donc,
Donc vous voulez parler d'un jeu moche pas intéressant, qui est basé sur les footsies.
Mais pour moi, un Mexicain, ça
on parle de cross Tekken ou on...
ça doit avoir un masque, courir dans tous les sens. Je sais pas, ça doit. Remarque, attends, ils ont mis des piments quand tu gagnes une victoire. T'as un piment qui s'allume. Au moins, l'honneur est sauf.
Ouais.
Tout le monde a la bouffe mexicaine en fait.
Bon. Il est temps de parler d'autre chose, de quand même d'autre.
On va passer à autre chose. Écoutez, moi je vais vous parler d'un article. Alors je ne sais pas si vous l'avez lu sur Cross Counter, un article qui parle d'un sujet qui vient pour tout le monde quand on dose. C'est apprendre un nouveau personnage quand on a un main, un personnage principal, et qu'on a envie d'en apprendre un nouveau. Et donc vous avez cet article sur Cross Counter qui vous donne des pistes ou des indices sur comment choisir son nouveau personnage, comment apprendre rapidement un nouveau personnage, et qui vous donne toute une méthode. Et donc, il vous explique, par exemple, quand vous jouez Sagat, qu'il faut essayer de trouver un personnage qu'on puisse utiliser en counterpick, de quelle manière le délimiter, comment apprendre ce nouveau personnage. Alors, je vous donne un indice, il faut passer en mode training, il faut s'entraîner, il faut apprendre les coups du personnage, et puis il faut apprendre tous les versus. Sauf que l'article, en fait, est vraiment très long, il est très détaillé, il vous donne pour chaque personnage par quoi commencer, il vous donne également un lien vers les hitbox de votre personnage.
Et on parle de Street 4.
Ouais, on parle de Street Fighter 4. Alors ça s'applique d'accord. Un peu partout, mais c'est l'exemple de Street Fighter 4 qui est donné à chaque fois. Sinon ça aurait été compliqué, tous les personnages de tous les jeux.
Mais pour revenir un petit peu sur l'apprentissage d'un nouveau perso dans un jeu, c'est quand même bien souvent, ça relance l'intérêt pour le jeu de changer de perso qu'on pouvait avoir. Enfin, on peut se lasser plus ou moins rapidement d'un personnage, et c'est vrai que de passer à un autre personnage, quel que soit le jeu, hein. Après il y a des jeux qui facilitent grandement l'appréhension d'un nouveau perso, alors que par exemple si tu prends un jeu comme Leisure Axis, je prends BlazBlue parce que c'est l'exemple qui me frappe le plus. Quand tu commences à jouer à BlazBlue sur un perso, le temps déjà d'apprendre un perso, quand tu passes à un nouveau, tu réapprends quasiment tout du jeu en changeant le perso, et ça peut vraiment te donner plus de profondeur et puis de la durée de vie au jeu. Donc
L'exemple est très bon, je trouve, parce que tu prends Street Fighter 4 par exemple. Effectivement, le passage d'un personnage à l'autre va te demander de réapprendre beaucoup de choses, notamment en fait le fonctionnement de base du personnage, c'est-à-dire que t'as des personnages bien sûr plutôt de zoning, plutôt de rush, les choppers, etc. Mais le fait est que dans Street 4, la plupart des coups classiques ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que souvent quand tu sautes avec un pied moyen suivi d'un pied moyen bas avec un coup spécial, c'est un combo de base qui marche avec quasiment tous les personnages. Contrairement à un BlazBlue, il faut vraiment que tu réapprennes complètement le personnage. Qu'est-ce qui fait cross-up ou pas, qu'est-ce qui va te permettre d'enchaîner quoi. Enfin, la marge de progression est bien plus importante dans un BlazBlue, par exemple, effectivement, que dans un Street 4.
Oui, donc.
C'est-à-dire que tout ce que tu vas retrouver dans un Street 4 que tu dois réapprendre, toutes les distances, effectivement, tout le zoning, toutes les caractéristiques de ton personnage, tu les retrouves dans BlazBlue, dans Guilty. Mais en plus, dans BlazBlue, tu as les spécificités qui sont bien plus.
Qui sont propres
à chaque personnage.
Par contre, je pense que, de toute façon, quand tu maîtrises les bases du jeu dans BlazBlue, les mécanismes du jeu, c'est des choses que tu gardes, donc faut pas exagérer non plus.
Mais tous les personnages, à peu de choses près, offrent un gameplay vraiment différent. Et malgré toute leur subtilité, tu prends un Ken et un Ryu, c'est vrai que le passage de l'un à l'autre est quand même beaucoup plus simple que si jamais tu prends un personnage radicalement différent. Et dans BlazBlue, t'as très peu de personnages qui soient très proches.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, pour en revenir sur l'article sur Cross Counter, c'est un article qui va très très loin. Donc si vous changez de personnage, ou que vous commencez à apprendre un personnage sur Street Fighter 4 en particulier, vous avez tous les détails dans cet article sur les différentes étapes, en 10 étapes en fait, c'est apprendre un personnage en 10 leçons. Et tout à la fin de l'article, en plus, vous avez plein de ressources sur des wikis, des forums, etc. Sachant qu'en français, vous avez le wiki de Bagropoint, de toute manière, qui est disponible tout le temps.
Et donc qui permet éventuellement justement de faire la transition entre cet article que vous pouvez lire sur Google Traduct, par exemple si vous avez du mal avec la langue anglaise, et d'enchaîner sur le wiki Bagropoint.
Tout à fait.
Voilà, nous sommes sans voix. Juste une dernière non-news avant de parler un petit peu de notre invité et puis de laisser parler TMDJC et d'aller boire un café. Non, non, juste pour dire que sur le sur les forums de Shoryuken, en fait, il y a Beast Fury. Alors Beast Fury, c'est le nom du membre qui a posté le message et c'est tout indiqué puisqu'en fait, il lance un Kickstarter sur un jeu qui s'appellera Beast Fury. Voilà.
D'accord.
Alors Beast Fury, qu'est-ce qu'on sait? Que ce sera un jeu en 2D avec. Avec des personnages, en fait, des furies. Donc, les furies, c'est des personnages qui ont une forme humanoïde, mais qui sont généralement poilus, genre un petit peu des loups, des chiens, des ce que vous voulez. Enfin, c'est vraiment un style particulier. Tapez Fury sur Google Images. Par contre, laissez bien activer le Safe Search, hein, parce que sinon, vous allez tomber sur des images très étranges. et donc, voilà. Donc, en gros, pour $5, vous aurez un pack de haute résolution avec les personnages dont on ne sait absolument rien. Pour $10, vous serez dans les crédits du jeu qui ne sortira probablement jamais. Et pour $25, vous aurez accès à une version bêta du jeu plutôt que les autres pour pouvoir tester ce magnifique jeu dont on ne sait rien. On a juste un artwork d'un Fury. Voilà, c'était mon petit moment de gloire, mon petit moment de plaisir, mon petit moment de bonheur pour vous parler d'un jeu dont on ne sait rien.
Merci beaucoup. Merci.
J'adore ta franchise, moi.
Je crois qu'après cette news, on a vu tout ce qu'on pouvait voir sur les jeux de baston. On va passer donc au Canon Spike de la semaine avec TMDJC. Alors, quelle est la question qu'on t'a posée à laquelle tu voulais nous répondre?
J'ai plein de trucs à vous raconter cette semaine. Je vais commencer par revenir sur le Canon Spike de la semaine dernière, puisque certaines personnes m'ont envoyé des messages et on a eu des commentaires sur le site de Bagro.fr. J'ai des petites choses à rajouter à notre ami Ned Flanders et à Livid qui ont participé en exprimant effectivement qu'il y avait un artwork qui se baladait avec un Ryu en slip, ce qui est totalement vrai, hein. Il y a effectivement un artwork, parce qu'on parlait la semaine dernière savoir si Ryu et Ken portaient des slips et des caleçons, et je peux même vous dire qu'il y a un artwork qui est assez compliqué à trouver, qu'on trouve dans les documentations du tout premier Street Fighter, où on a un Ryu qui n'a pour sous-vêtement qu'une coquille pour se protéger, donc c'est tout ce qu'il porte en fait sous son kimono. Mais là, je me suis référencé bien évidemment quand on parlait des slips et des caleçons en fait aux éléments qui étaient canon, donc validés par Capcom. Effectivement, par contre, il y a des artworks, ce qui sous-entend que Ken et Ryu, en tout cas Ryu, changent de sous-vêtements de temps en temps, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, et ça c'est une très bonne chose.
Mais ça pourrait expliquer aussi si des fois les Tatsumaki, pourquoi ça touche.
Alors,
certaines Xbox des fois sont tendancieuses, tu vois que le pied est de l'autre côté.
Voilà, maintenant tu sais pourquoi, effectivement. La deuxième chose, Livid nous rajoutait un petit coucou, d'ailleurs Livid, c'est une nous écoute cette semaine, bien sûr, nous rajouter des références au niveau des couleurs sur les symboliques Shinto, qu'on retrouve également, je sais pas si c'est quelque chose qu'il sait, en tout cas j'en profite pour le rajouter, mais c'est des couleurs qui font également référence à ce qu'on va trouver au niveau des chakras. Effectivement, chaque couleur va avoir une symbolique. Et il parlait notamment de la référence de la symbolique céleste pour tout ce qui était violet, donc notamment tout ce qui est en lien, en adéquation avec tout ce qui est divinité ou monde démoniaque. Et donc je trouvais cette précision intéressante, puisqu'on faisait référence aux couleurs la semaine dernière. Donc il a rajouté un petit commentaire avec un petit lien. Je peux pas confirmer à Livid que Capcom fasse référence exactement à ça. Par exemple, le Sonic Boom de Guile qui est blanche jaune, je sais pas si on peut choisir effectivement que ce soit en lien avec la création ou mais c'est vrai qu'il y a toute une symbolique qui est très utilisée au Japon bien sûr, mais dans beaucoup de pays asiatiques, qu'on va retrouver également en Inde sur le travail des chakras notamment, je le disais tout à l'heure. Donc voilà, si jamais vous voulez plus de détails, je vous invite à retourner sur le Canon Spike de la semaine dernière. Notamment tout ça a été exprimé par Livid et donc les questions de Ned Flanders. Sinon, cette semaine, j'ai deux trucs à vous dire. Donc, un Canon Spike rapide et puis une réponse liée à une question qui nous a été posée sur le forum de Canard PC. Alors, j'ai choisi un Canon Spike. En fait, j'en avais choisi un au départ et puis finalement, j'en ai pris un autre. Pour répondre rapidement, je reviendrai sur cette question-là la semaine prochaine et j'en profite pour faire une petite parenthèse. Jojo, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui continue à participer à Toasty de manière décalée, propose une surprise à la personne qui posera la question au Canon Spike de la semaine prochaine. Donc si jamais, parce que j'ai exprimé que j'avais déjà plus ou moins fait mon choix, mais si jamais il y en a un parmi vous qui a une super idée à nous poser comme question et que je finis par changer de choix, ben, sachez qu'il y aura une petite surprise. Donc je vous invite à continuer à participer. Donc le Canon Spike de cette semaine qui nous est posé par Guil, c'est: pourquoi est-ce que DJ sourit tout le temps?
Donc, moi je te dirais que c'est une des caricatures de Capcom avec les Indiens tout maigres et les sumos très gros et les Américains qui sont baraqués et qui ont des coupes à la con. Sinon je sais pas.
Non, bah en fait c'est juste son caractère. En fait c'est que c'est quelqu'un de jovial et qui adore passer du temps avec les gens et qui sourit facilement. C'est l'explication canon de Capcom. Donc voilà. De temps en temps on fait des trucs un petit peu longs. Là je vous avais prévenu.
Il sourit parce qu'il est content.
Voilà,
parce
qu'il est un peu trop fumé.
Non voilà, ça y est, tu pars tout de suite dans les.
Ce n'est pas exprimé que par Capcom. J'en viens à un débat qu'on a déjà lu ou déjà vu en long, en large et en travers sur Bagropoint, à savoir le terme versus fighting. Alors, rassurez-vous tout de suite, on ne va pas refaire tout le débat là. Là n'est pas le propos. Le but du jeu n'est pas de savoir si il est intéressant d'utiliser le terme ou pas. Sur le forum de Canard PC, on nous a posé la question de savoir du coup si la notion de versus fighting appartenait à Capcom. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire une liste exhaustive des vrais versus fighting et le cas échéant, est-ce qu'on peut expliquer en fait quel est le choix de Capcom à rentrer un jeu en versus fighting ou pas? Alors, pour la première question, si jamais la question nous avait été posée il y a quelques mois, j'aurais dit oui, sans aucun problème, on peut faire une liste exhaustive des Fighting Street, des Versus Fighting. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, pour une raison toute bête. En fait, la référence était faite par rapport en grande majorité, en fait, aux jeux sortis en arcade. Je dis en grande majorité parce que Street Fighter EX 3, qui n'a jamais eu de sortie arcade, est considéré, bien sûr, par comme tous les autres Street Fighter, d'ailleurs, par Capcom, comme un versus fighting. Il y a des jeux, en fait, qui sont sortis dernièrement. On est incapable de savoir si c'est réellement du versus fighting ou pas, parce qu'ils n'ont pas l'appellation versus fighting, mais font partie d'une lignée qui l'était. Un exemple tout bête, Tatsunoko versus Capcom. Sa sortie arcade, parce que le premier est sorti en arcade, est considéré comme un versus fighting. Versus fighting qui n'apparaît absolument pas sur les jaquettes japonaises, du coup, qui était un petit peu notre référence là-dessus, sur les sorties consoles. Et du coup, Marvel versus Capcom 3 qui est sorti depuis, alors que les précédents étaient du versus fighting, n'ont pas la mention. Donc, on ne peut pas dire officiellement que ces jeux font partie de la grande famille des versus fighting. Alors, juste pour faire un petit résumé là-dessus, Capcom, en fait, a commencé à ranger ces jeux par catégorie. Enfin, il le faisait déjà avant. Et par couleur, en fait, les couleurs faisant référence à des termes de jeu. Alors, par exemple, l'écriture rouge sur un fond jaune représente par défaut le versus fighting. On a la catégorie verte qui correspond à tout ce qui est puzzle game, par exemple. On a les écritures noires sur un fond rouge qui est sur tout ce qui est interactive movie, par exemple Street Fighter 2 The Movie est sorti dans cette catégorie, Capcom en a sorti quelques-uns. Et puis vous avez des jeux un petit peu obscurs. Alors sachant que chacun de ces jeux ont le droit à des sous-catégories, par exemple Street Fighter 2 qui est un versus fighting est un head-to-head. Et donc X-Men versus Street Fighter qui lui aussi fait partie de la catégorie des versus fighting et lui est un tag battle. Donc suivant en fait les catégories de jeux, en fait Capcom fait des catégories et des sous-catégories. Puis des fois il y a des sous-catégories qui ne possèdent qu'un jeu. Ça arrive de temps en temps. Par exemple, il y a les Power Battle où il n'y a que Power Stone à l'intérieur. Sachant que Power Stone n'est pas du versus fighting. Alors, la définition de Capcom, elle est assez floue sur le versus fighting. Grosso modo, c'est lui qui décide quel jeu fait partie ou pas de cette grande famille. Grosso modo, en fait, tout ce qui se colle de près ou de loin sur le mode de base de Street Fighter 2 est considéré par Capcom comme du versus fighting, ce qui sous-entend pas forcément des jeux en 2D, mais des jeux qui ont en tout cas un gameplay complètement collé sur la 2D. Par exemple, le fameux All About Capcom 1987-2000 recense tous les jeux que Capcom considère comme du versus fighting, donc jusqu'à l'an 2000. Rajouter à ça les Capcom versus SNK, par exemple, pour Capcom, c'est évidemment du versus fighting. Donc voilà, j'espère avoir éclairé un petit peu.
Interrogation.
Ah, t'en as éclairé plusieurs, là, des lanternes.
Alors, Kaldan, si c'est en noir sur un fond rouge et que...
Attends, c'est quoi noir sur fond rouge, c'est un truc de film, là, les movies, c'est un truc avec Jean-Claude Van Damme.
Oh, il est trop, trop fort.
En plus, t'as vraiment écouté. Moi, j'étais en train de regarder Dragon Ball Kai sur Game One, et toi, t'es vraiment...
Non, mais je me suis levé, à un moment donné, j'ai cru qu'il avait fini sa phrase, mais c'était pas un point, c'était une virgule. Non, désolé, en tout cas, c'était super intéressant. T'as bien répondu à la question sur le forum.
Oh, le fou.
On va envoyer tout le monde sur l'autostie pour ceux qui n'écoutent pas, parce que là, les gens sont en train d'interpréter des réponses, et alors que tu viens de nous donner l'explication complète et plus.
Voilà, non, mais bon, voilà. Et après, il y a d'autres choses. Hein. Il y a des jeux, par exemple. Ah.
Non, c'est bon.
Non, après, ce qu'il faut dire, c'est que le terme versus fighting, on l'a utilisé en France, mais c'est surtout Ken Bogard dans ses tout premiers casts qui arrêtait pas de le citer, qui parlait des grands joueurs de versus fighting japonais avec ces mots-là.
Dans leur contexte là-dessus, parce que Ken Bogard a certainement démocratisé le terme ces dernières années, c'est vrai, mais pour remettre on a eu cette discussion avec Nathan il y a quelque temps. Le jour où Nathan a pondu son article, en fait, il m'avait contacté avant pour savoir si oui ou non il faisait l'article, si j'avais des documents récents à ce niveau-là. Donc on a alimenté de tous les termes que vous avez dans l'article, on les a récupérés notamment à cette période. Moi, le terme versus fighting, je l'ai utilisé en long, large et en travers quand je jouais à Street Fighter quand j'étais plus jeune. Donc c'est pas un terme qui est récent. Tous les vieux gays, entre guillemets, utilisaient ce terme-là. Entre guillemets, c'était le terme des initiés. C'est juste qu'on s'est rendu compte à un moment donné, moi, quand j'ai commencé à fouiller un peu plus loin que Capcom et que j'ai commencé à jouer notamment au jeu SNK, c'est à l'époque de KOF 94 où je me suis dit, mais c'est marrant qu'il n'y ait pas le terme versus fighting qui apparaît sur les jaquettes. Et j'ai commencé à chercher à ce moment-là, en fait, pour savoir pourquoi il n'y avait pas ce terme-là. Et c'est là que j'ai découvert, donc via une doc... commercial interne à Capcom qui m'a été fourni par un copain qui avait donc été au Japon à cette époque-là, qui avait non seulement des catégories, enfin que le terme appartenait à Capcom, qui avait des catégories et voire des catégories un petit peu bizarres. Et puis il y a eu une deuxième doc que j'ai récupérée depuis qui confirme ces informations.
D'accord, ok. Ok, bon ben, je crois qu'on a fait le tour de la question et on va parler maintenant de notre invité, donc l'Arvosaur.
Bah, il est parti, donc on va, hop, on coupe, hop, il revient, c'est bon.
Je suis toujours là, vous inquiétez pas.
Ok, donc l'Arvosaur, tu t'es rapidement présenté, donc toi tu es le président de l'association NTSC, voilà. Je crois qu'il n'y a pas une association toute jeune, hein, qui existe déjà depuis un moment.
Est-ce oui, que oui, en fait, on s'est
parlé de ton association.
Ok, oui, excuse-moi. Donc oui, alors on a créé l'association nous en décembre 2002, donc ça va faire 10 ans très bientôt. En fait, à l'époque, on était encore beaucoup de joueurs de baston à l'ancienne, quoi, finalement, dans notre entourage à Nancy. Et d'ailleurs, Nancy, département 54. Alors, je sais pas si c'est le hasard, hein, mais que je suis invité pour le Toasty 54.
Mais bon, ah, voilà. Ouais. Pas du tout. on l'a fait exprès, en tout cas.
Vous êtes trop fort. Hein. Donc oui, on était un grand nombre comme ça, enfin encore un bon petit nombre finalement, alors que c'était un genre de jeu qui était déjà enterré à l'époque, en 2002. Hein. Donc il y avait eu Capcom SNK 2 qui était sorti l'année d'avant, si tu dis pas de bêtises, mais globalement c'était fini quoi. À part les jeux 3D, nous pour la 2D on était un peu bon. Mais on était encore beaucoup à jouer, donc on a commencé à faire des tournois et voilà, après jusqu'en 2007, où on faisait en fait, on a pris un peu une pause parce que c'était un peu compliqué à gérer, hein. Tout le monde commence à travailler, etc. Bon bref, au début on était tous chômeurs, donc ou étudiants, alors c'était plus simple. Et voilà. Et finalement on a repris à partir de 2011, quand finalement on s'était dit qu'on avait loupé quelque chose quand même, toute la vague Street Fighter 4, etc. Et donc on avait organisé un événement à l'époque, c'était pour un événement caritatif pour le Japon suite au tremblement de terre. Et à la mairie de Nancy, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui jouaient à Street Fighter 4, énormément de, qui s'intéressaient même à la baston en général, quoi, finalement, qui venaient avec des sticks arcade et tout. Enfin bon, nous, ça nous faisait un peu bizarre. Finalement, on a décidé de rempiler, puis maintenant, on refait des sessions régulièrement, c'est-à-dire, en gros, une fois tous les deux mois. Mais, dans notre fief de la MJC des Trois Maisons, pardon, où on avait organisé en 2005 la finale des qualifications françaises pour le Tougeki. On a fait ça, ça a été fait à Nancy à l'époque. Ouais, non, maintenant, ça fait rire, mais bon, parce que surtout quand on voit comment ça a évolué, disons, tout ça. Maintenant, c'est vrai que c'était un tout petit truc. Hein, on a dit avec quelques équipes, mais bon, ouais, c'était bien sympa. Et voilà, j'ai connu aussi à l'époque la FFJC, dont j'étais le vice-président. Je ne sais pas si vous avez connu.
Ouais.
La Fédération française des jeux de combat. Alors, c'était ambitieux, mais c'était peut-être trop en avant sur son temps. C'était SNK qui avait lancé ça. Et bon. Et donc ça se ferait maintenant, je pense que ça cartonnerait, mais voilà, à l'époque, ça, il y a eu des batailles d'ego, etc., des gens qui voulaient pas en faire partie, et du coup, ça, bon, c'est vite parti en cacahuète, quoi. Et voilà, et donc là, maintenant, on est reparti comme en 40, hein, avec plein de monde et tout, plein de jeunes prometteurs qui en veulent, et voilà, bien, la semaine prochaine, on organise, enfin, ce week-end, là, pardon, les 17 et 18, on est au Palais des Congrès, donc dans le cadre de la convention Animest, et on organise des tournois, donc sur Super Street 4, KOF 13, Tekken et Tekken Tag 2 et First Strike Online Edition. Voilà. D'accord. Donc bon, on espère que normalement ça va bien se passer. Hein, il y aura du monde et tout, et qu'on va rencontrer plein de nouveaux joueurs. Donc surtout si vous êtes de la région Lorraine, etc. Enfin, oui, là, évidemment la Lorraine, mais tout généralement l'Est en fait.
Ouais, Nancy, c'est, enfin, en train, c'est quoi, c'est 1h30 de Paris, 1h de Paris, un truc.
Une heure et demie, ouais, c'est ça, 1h30 de Paris. Heure, ouais. Donc, ben, disons que c'est une ville qui est accessible et tout. Alors évidemment, il y a beaucoup de tournois en ce moment. C'est vrai que c'est la période, hein. Donc on sait que on va pas avoir forcément beaucoup de gros invités, voilà, par rapport à, disons, une certaine époque où il y avait que nous globalement, hein, quand on a commencé. il y avait à l'époque, il y avait donc Animest, le Stunfest qui venait juste, qui a même pas commencé d'ailleurs. Il y avait enfin
oui,
il y avait
deux, c'est ça.
Ouais, il y avait deux trois events quoi, c'était vraiment le tout début quoi. Et voilà, donc là par contre maintenant c'est vrai que c'est l'orgie, il y a des tournois tout le temps, moi j'arrive même pas à suivre. Alors c'est vrai que c'est devenu un peu compliqué pour organiser des choses maintenant, hein.
Ouais, ouais. Le peut-être le côté agréable du fait qu'il y ait aussi beaucoup de tournois, c'est que du coup il y a peut-être des gens qui ne se seraient jamais déplacés loin parce que bah voilà, c'était loin de chez eux, qui aujourd'hui vont peut-être trouver des choses un petit peu plus proches. Ah bah ça, oui, c'est le côté agréable. Maintenant, c'est vrai que pour les vieux de la vieille, entre guillemets, ça devient un petit peu plus compliqué à gérer et de ramener du monde, c'est vrai.
Voilà, puis surtout que nous, on n'a jamais été trop pour tout ce qui est, disons, cash prize, etc. Mmh. C'est notre idée un peu de la compète, hein.
Bah ouais, non, mais c'est bon esprit. De toute façon, il faut aussi qu'il y ait des assos qui restent dans ce... Dans cet état d'esprit.
Voilà, nous par exemple, là, on est parti dans l'optique pour Animes de faire des tournois, de proposer des tournois gratuitement. Les participations, donc personne n'a rien à payer pour s'inscrire. C'est justement pour qu'il y ait le maximum de monde et qu'il y ait de l'émulation, etc. Donc voilà, nous en fait, tout ce qu'on espère, c'est vraiment ratisser large et surtout intéresser des gens à la baston, quoi.
Moi, c'est complètement ça. C'est vraiment. Bon, on en avait déjà parlé lors des précédentes hosties, hein, mais mm-hmm. C'est vraiment une démarche que j'apprécie pour faire découvrir effectivement ce style-là qui rappelons est quand même vraiment une niche. Hein, c'est vraiment un style à part entière le jeu de combat tel qu'on l'entend. Hein. Je trouve ça très très bien qu'il y ait encore des assos comme ça qui décident de proposer des choses qui sont gratuites pour donner envie aux gens, si ce n'est au moins de faire leur première compétition, peut-être de découvrir quelque chose qui va les passionner par la suite.
Voilà, parce qu'en plus, nous, notre credo, ça a toujours été aussi de proposer un maximum de postes de free play en marge des tournois. Donc comme ça, ce qui permet, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui jouent qui viennent que pour le free play, de toute façon. Mmh. Et ça permet aussi qu'il y ait des gosses qui viennent jouer. Enfin bon, c'est vraiment sympa, quoi.
C'est un partage.
Voilà, c'est ça. Surtout que maintenant, bon, nous, entre guillemets, à part il y a quelques-uns, évidemment, qui sont vraiment des acharnés. On a notamment Abdes, qui est dans les 16 qualifiés pour la No Life Strike League, là. Mm-hmm. Voilà, qui est vraiment très bon. On a quelques-uns qui sont vraiment motivés. Mais globalement, bon, nous, on est plus là pour se faire plaisir et pour s'éclater sur des jeux qu'on aime, quoi. Donc, on propose aussi autre chose, pas forcément que de la baston, quoi. C'est-à-dire, il y a aussi du rétro gaming, des shmup, des sous-couches comme ça, un peu de... Donne-nous notre définition à nous du jeu vidéo, quoi. Voilà. On essaie de proposer ça. Au-delà des Call of et autres FIFA, bon.
Oui, tout ce qui est plus mainstream.
On parle pas de ça, si oui.
Voilà. On évite d'en parler, de toute façon, si les gens veulent.
Il y a des mots qui sont tabous, monsieur.
Voilà, oui, je sais bien. Ouais. Non, c'est beaucoup d'anciens. Disons, moi, j'ai connu. Enfin, bon, je sais pas quel âge vous avez, vous, mais. Bon, moi,
oui, alors là, non.
C'est méchant, vous avez tellement de parler.
On t'a reçu avec toute notre amitié et tout, ça se passait très très bien. Voilà. Ne sois pas désagréable.
Non, parce que bon, voilà, nous, moi je suis parti d'une génération, on a vraiment connu les jeux vidéo. Enfin, moi j'ai joué à Galaga en arcade, etc.
C'est vrai que.
Bon, tu es pardonné alors.
Ouais. Et on est, enfin, il y a beaucoup d'anciens nous, hein, qui s'approchent, enfin, qui sont autour de la quarantaine, etc. Et voilà, qui continuent toujours de jouer comme ça pour se faire vraiment plaisir, quoi.
Mais écoute, avec cette phrase, je viens d'obtenir gratuitement la possibilité de participer à Tosti toutes les semaines. Grâce à ton âge, bravo.
Oui, c'est parce que grâce au tournoi que tu organises, TMDJC n'aura pas à dépenser toutes ses allocations retraite pour participer.
Superbe. Et voilà, donc oui, sinon, bah, c'est bien aussi qu'il y ait des émissions, évidemment, comme Bas Gros Point, je pense, pour parler de tout ça. Quoi. C'est vrai qu'à l'époque, on en rêvait de ce genre de choses, des espèces des web radios qui sont bien suivies, des podcasts, comme on dit maintenant. Ouais. pareil, tout ce
qui est... C'est un petit fun qui a fait ça.
Voilà, la Coupe de France de Street Fighter, par exemple, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une super initiative. J'espère que ce genre de choses vont continuer. Ça va vraiment dans le bon sens, alors on va voir comment ça évolue d'ici peu, quoi. J'espère en tout cas qu'il y aura une vraie unité nationale qui va commencer à se mettre vraiment en place, quoi.
En fait, il va surtout falloir voir si, avec la baisse de jeux de baston, s'il y a une baisse de jeux de baston effective, les gens vont continuer sur la lancée avec les jeux déjà sortis ou même des vieux jeux, des choses comme ça.
Parce que pardon, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, vite fait, en fait, je voulais dire, c'est vrai que nous, on est super contents qu'il y ait autant de jeux qui sortent en ce moment, autant de suites, autant de jeux qu'on adore, mais le problème, c'est que d'une, on n'a pas le temps de jouer à tout. Alors c'est compliqué, quoi, par rapport à l'époque où on avait justement un étalement dans le temps, quoi, des sorties. Là maintenant, avec toutes les sorties qu'on a eues cette année, enfin, c'est un peu n'importe quoi, je trouve, un peu trop. Et là, j'ai peur.
Pas totalement vrai. C'est qu'en fait, on n'avait peut-être pas le même pouvoir d'achat aussi qu'aujourd'hui, et qu'il y avait plein de jeux qui sortaient qu'on n'achetait pas.
Oui, c'est vrai aussi. Mais je parle par rapport, disons, nous, à nos premières années, quoi. C'est-à-dire que depuis 2002, pendant longtemps, on a eu une sortie de temps en temps, voilà.
Ah bon. Oui, non, parce que si tu reprends l'époque des premiers streets ou des premiers coffres ou etc., il y avait au moins un street par an et parallèlement à ça, chez SNK, t'avais 4, 5, 6 sorties dans l'année. Enfin, il y avait, c'est donc des jeux de baston, il y en avait. Hein. C'était.
Ah oui, il y en avait beaucoup, surtout, je pense vers 95, justement, on parlait tout à l'heure du début de la PlayStation. C'est vrai qu'il y avait encore, justement, SNK qui développait à fond, Capcom, plus les jeux 3D qui arrivaient, quoi. Donc là, ça, ouais, c'est vrai.
Tu nous dis qu'au niveau de ton association, donc tu fais du free play deux fois par mois, vous vous retrouvez, vous avez un local, ça se fonctionne comment en fait?
Alors justement, non, on n'est pas deux fois par mois, c'est un peu le problème, c'est une fois tous les deux mois. Alors je suis mal exprimé tout à l'heure, mais non, en fait, voilà, on a un gros problème actuellement, c'est qu'on a besoin d'un local parce que on est vraiment nombreux et les soirées dans les apparts à 3-4, on peut pas être, c'est pas possible. Donc voilà, on est actuellement, juste après Animest, on va se lancer vraiment dans la question du local. Surtout qu'on commence à stocker beaucoup de télé cathodiques. Moi, dans mon couloir, là, j'ai un petit F2, hein, j'ai 5-6 télé. Et bref, en fait, on commence à investir aussi avec l'argent qu'on récolte. Hein, ça va commencer à vraiment être compliqué, donc on va sérieusement chercher un local pour poser une espèce de dojo, justement, où on se réunit régulièrement, comme ils ont, parce qu'on est en partenariat, ce que j'ai pas dit, avec Spin Arcade, d'ailleurs, grosse dédicace, hein, que vous avez déjà reçu, je te bip, si je me rappelle bien, quelques temps. Et eux, ils ont justement un local de ce type qui leur a été fourni par la mairie, alors on espère pouvoir réussir à avoir quelque chose, on va voir.
Bon, on vous le souhaite, hein.
On vous souhaite un super tournoi, effectivement. Donc c'est le week-end donc qui arrive là à Nancy, donc au Animest Galactic Tournament. Donc c'est ça le nom de l'événement.
Voilà, c'est ça, au Palais des Congrès.
Ok. Et donc en free play, le free play, c'est vous également qui organisez ou c'est d'autres intervenants?
En fait, donc nous on est là pour la partie baston, oldies, shmup. Bon, on a mis aussi du multijoueur comme du Smash Bros ou du Bomberman, parce qu'en fait on a été contacté. Il y a une communauté de Smash Bros dans l'Est, quoi. Bon, je savais pas, ils nous ont demandé et tout, donc nous on avait déjà prévu ça, donc c'est parfait. Mais ouais, il y a des communautés pour tout en fait, des joueurs cachés, bon, on les découvre au fur et à mesure, quoi. C'est marrant. Voilà, puis à côté de ça, bon, on a aussi du Gundam versus Extreme, donc ça, celui-là,
ouais, j'ai... si tu nous entends,
voilà. J'ai eu un gros coup de cœur pour le jeu là quand j'étais allé au Japon. Enfin, j'avais vraiment adoré, surtout regarder les gens jouer, parce que j'ai essayé deux secondes, je me suis fait rétamer. Bon, bref. Et voilà, on a ça, puis on a mis aussi quelques jeux à licence pour cadrer dans le style, vraiment plus près du thème de l'événement, c'est-à-dire on a mis du One Piece, des trucs comme ça. Bon, et puis du Project Diva, voilà, pour les amateurs.
Bah écoute, c'est bien, ça ratisse large, et puis au moins ça permet justement de réunir des communautés qui n'ont pas l'occasion de jouer beaucoup sur des gros events. Ça peut être sympa de montrer leur jeu.
Voilà. Je rebondis du coup sur ce que tu disais tout à l'heure. On va voir ce que va donner la suite, le fait qu'il y ait de moins en moins de sorties, etc. Pour avoir déjà vu du coup de loin, de retomber, il y a quelque chose de réellement différent aujourd'hui qu'on n'avait pas auparavant quand on se retrouvait à devoir gérer chacun de son côté justement les tournois, les informations, etc. Aujourd'hui, il y a Internet et je pense que ça va largement contribuer à ce qui est toujours cette communauté, enfin rendre solidaire entre guillemets la communauté. Il y a des moyens de communication qu'on n'avait pas à l'époque et je pense que forcément la communauté va se réduire de manière totalement mécanique, parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de nouveautés, qui vont passer à d'autres choses. Voilà. Mais je pense qu'on aura un noyau dur, certainement plus conséquent que ce qu'on a eu ces derniers temps.
Ah, c'est sûr, il suffit de voir déjà tout ce qui est le revival de 2X, par exemple, qui est eu récemment. Mm-hmm. Alors, c'est assez impressionnant, finalement, ça s'est fait en très peu de temps grâce au X-Mania. En fait, il suffit de pas grand-chose, des fois, pour relancer la machine. Par exemple, First Strike, à l'époque, en 2005, avec la fameuse vidéo de Daigo, Daigo versus Justin Wong, là ça avait tout relancé finalement. Enfin, nous à l'époque, c'est marrant, il y a plein de monde qui s'y était mis, alors qu'avant, ça y jouait sans plus finalement. Enfin, dans nos environs, je parle. Hein. Alors
ouais, mais c'était pareil ici. Hein.
C'était pareil tout.
Nous on était quelques-uns, et puis je vais même te dire, on était quelques-uns à très mal jouer parce que du coup, comme on jouait entre nous, on jouait comme on jouait, entre guillemets. Quand tu commences à rencontrer d'autres personnes qui eux ont taffé leur truc de leur côté, tu fais ah ouais, en fait, finalement. Et puis là, tu commences à comprendre vraiment les mécanismes du jeu. Puis un jeu comme Source Strike, c'est un jeu
moi c'était ça un des premiers tournois où je suis allé, c'était à l'époque Cartoonist 2001, je crois, un truc comme ça. Donc c'était déjà organisé par Asenka, hein. C'est-à-dire les vieux, ils sont toujours là.
Et c'est toujours les mêmes,
c'est toujours les mêmes.
C'est clair.
Il y avait déjà Well et compagnie, c'est toujours les mêmes, hein. Et bref, en fait, j'avais halluciné, j'avais vu des joueurs de First Strike jouer tous les persos, faire des paris, machin. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Alors que nous, on jouait qu'avec Ryu, Ken, Guki, c'était pas compliqué. Et donc, du coup, c'est à partir de là, ouais, que ça a vraiment. Moi, c'est en voyant justement des gens jouer en tournoi que ça. Je jouais à CBS2 à l'époque et je me suis fait rétamer à un tournoi et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, d'accord. C'est ça le niveau.
Mais c'est ça, c'est vrai que ça fait bizarre tout d'un coup quand tu sors un peu de chez toi, que ça fait des années que tu es le meilleur de ton quartier, que tu as explosé tout le monde, tout, etc. Tu arrives très confiant quelque part. Et là, tu vois un mec qui a 5-6 niveaux de plus que toi, qui te balance deux perfects. Tu fais ok, bon, donc je suis une grosse merde, je vais m'entraîner un petit peu. C'est hallucinant ça.
Bah oui, le pire, c'est. Enfin, il y a quelques années, il y avait Daigo qui était venu à Strasbourg comme ça. Et la journée là, ça a été complètement dingue. Distribuer des perfects à tout le monde, ils changeaient de jeu, les gens ils disaient allez on change de jeu, mais c'est VS2, et hop ça continuait, enfin bref, c'était n'importe quoi.
Ça c'est un truc qui m'hallucine chez certains joueurs, ouais. C'est cette faculté en fait à changer de jeu et être toujours bon, c'est-à-dire que tu as vraiment certains styles de jeu qui te demandent vraiment un timing bien particulier, etc. Et c'est la rapidité de transition, la manière dont ils sont câblés, dont fonctionne le cerveau, ça c'est un truc qui m'a toujours impressionné.
Oui, c'est dingue parce que, par exemple, moi je sais quand je change de First Strike à Street 4, par exemple, mettons.
C'est une horreur.
Street 4 à Kof, par exemple, encore pire.
Voilà.
Tu fais des roulades.
Nous, on a toujours eu l'habitude de jouer à beaucoup de jeux, donc finalement, ça se fait relativement vite, mais quand même, quoi. C'est vrai que je respecte aussi beaucoup surtout les Kyongsters, par exemple. Alors lui,
c'est hallucinant.
Ouais, ouais.
Passer de Street 4 à 2X claquement de doigts, c'est parce que tu prends Honda dans l'un ou dans l'autre, c'est quand même pas du tout le même perso.
C'est pas le même perso.
Plus, ça n'a rien à voir. Mais moi, par contre, je suis vraiment content de l'évolution, disons, du niveau de la scène française, globalement. Enfin, je trouve que. Ça a vraiment, vraiment progressé. Hein. Le pire, c'est la First Strike. Hein. Alors là, pourtant, ils sont pas très nombreux, finalement, quand on regarde bien. Mais c'est vraiment une communauté qui se tire vers le haut. C'est impressionnant, quoi.
Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a déjà même l'année, il y a deux ans. Il y a eu vraiment une amélioration des mentalités aussi au niveau de la communauté. Avant, tout le monde gardait tout pour soi. Aujourd'hui, on voit les joueurs qui s'échangent les techniques, qui s'échangent. Il y a plus de solidarité. Ce n'est pas encore au même niveau que les Japonais qui, eux, ont carrément développé ça depuis le départ, depuis des années. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a deux ans à la sortie de Street Fighter 4. Les gens restaient dans leur coin à développer leurs propres techniques alors que finalement tout était sur Internet de toute manière.
Puis voilà, je rappellerai qu'il y a strictement aucun intérêt à ne pas partager, parce que le partage fait bien sûr monter mécaniquement le niveau, et ce qui est valable pour un joueur qui est très bon d'avoir des adversaires qui vont s'améliorer, c'est de pouvoir lui-même continuer s'améliorer. À progresser. Donc on a tout intérêt, c'est un jeu de toute façon, il faut rappeler, ce n'est qu'un jeu, donc
exactement.
Au contraire, jouons tous ensemble.
Exactement. Donc oui, bon, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. J'espère que... Bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi l'histoire de la No Life Street Fighter League. Là, je suis assez curieux. Donc je sais pas si vous avez des infos supplémentaires.
Plus que ce qu'on a déjà énoncé, non. Enfin, sauf non. Si vous, les gars, vous avez des...
Ah non.
Absolument pas.
Pas encore.
Donc voilà. Donc affaire à suivre. Mais on va suivre ça de toute façon, c'est sûr.
Ouais, d'accord. Donc bon. Voilà, en tout cas, je voulais quand même passer un bonjour à tout le monde. Hein.
Fais, vas-y.
Bah déjà, évidemment, tous les éditeurs de Bagro.point, hein, normal. Et puis,
nous aussi, d'ailleurs. Allez, bisous aux éditeurs de Bagro.point.
Voilà, ça fait plaisir à des fans de la baston qui écoutent une émission toutes les semaines. Et évidemment, tous les gens de la communauté, les fans de Roti et compagnie. Quoi, voilà.
Ok. Et puis, on va enchaîner quand même, parce que bon, malgré ce gros event à Nancy, il y a un autre truc le même week-end à Montpellier.
Et ouais, à Montpellier, ouais.
C'est à Montpellier, donc les gens qui peuvent pas aller jusqu'à Nancy, qui sont plus dans le sud, là, aller faire un tour à Montpellier. Il y a la SLE de Montpellier et Choryupif qui organisent donc la MIG. C'est un tournoi Street Fighter 4 Arcade Edition le 17 et 18 novembre 2012 avec pas mal de choses à gagner.
Ouais, ils sont bien organisés aussi. Ça fait longtemps qu'ils préparent leur truc, donc voilà, pareil. On leur souhaite un
voilà, faites un tour sur www.lan-sle.net pour avoir toutes les infos.
Ou sur yopif.fr.
Ouais, sur yopif voilà. Également. Et vous avez un tournoi 3-3 qui est organisé à Rouen la semaine suivante. Donc c'est à Rouen, c'est l'association Double KO qui organise ça. Et c'est à la Maison Saint-Sévère. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sinon, que ça, à l'inscription, ça vous coûte 4 euros, 2 euros si vous êtes déjà adhérent. Et c'est une association qu'on a déjà reçue, il me semble. Hein,
tout à fait.
On a déjà reçu sur Youpif, et puis c'est que sur 3.3. Je suis en train de regarder, mais il n'y a pas de Street Fighter 4 ou d'autres jeux plus bâtards.
Donc ça va être sévère.
Ça va être bien sévère. Ça va être direct comme le jeu.
Voilà. Ouais. Ben, écoute,
je crois qu'il n'y a pas d'autre tournoi qui a été annoncé à part le X-Mania, mais c'est l'année prochaine. Bon, on en reparlera plus tard.
X-Mania, donc on en reparlera forcément parce qu'a priori ce sera le dernier. Ouais. En tout cas, avant un bon bout de temps.
À chaque fois, tu finis par un truc triste. À chaque fois.
Mais oui, mais c'est le. Enfin, franchement, je sens un gros truc là. Donc, si jamais vous avez l'occasion, si on a un à vivre, à mon avis,
c'est celui-là. Faut y aller. Ouais, a priori, ça va être vraiment un truc de fou.
Donc, n'hésitez pas à vous déplacer. Ça va être bien.
Il paraît qu'il y aura un TMDJC versus The World.
ou The World versus TMDJC, ça dépend en fait.
Ça sera plus dans ce sens-là. Eh
hey, les gars, il est encore vivant. Mais...
Vas-y, remets une pièce. Bon, bah c'est... C'était TMDJC.
Voilà. En fait, le X-Mana va continuer. C'était le dernier thème de JC, en fait.
Oh, t'as un cosplay de Ryu qui a perdu. Non, fais pas un cosplay.
Merci de nous avoir écoutés. Après, c'est 1h20 d'enregistrement. J'espère qu'il reste encore quelques trois personnes au fond, là, pour en tout cas vous dire au revoir. Et puis, ce fut un plaisir à nouveau. En ce qui me concerne.
Et pour les quelques personnes, on continue pas sur le versus fighting, on arrête vraiment le.
Non, bon, d'accord. Non, ça, je crois qu'on a fait le tour sur le versus fighting, la suite sur le forum, si vous voulez continuer le débat. Bonne fin de journée à tous, merci encore à
Larvosaur.
Larvosaur,
merci à vous, hein, surtout, c'est sympa.
Bah, c'est un plaisir de soutenir les vieilles assos comme ça qui tiennent encore le choc et avec des papis comme nous.
C'est lui. Voilà, j'apprécierais que tu arrêtes avec les mots vieux ou papy, s'il te plaît.
C'est vrai, on est un
il peu. Dit qu'il veut que tu arrêtes.
Ok, bon, bah j'arrête. Bah écoutez, messieurs. Et peut-être madame, mais allons savoir. À bientôt.
Bisous tout le monde.
Salut.
Ciao. I wanna take you for a ride.